Bonjour et bienvenue à ce numéro d'À propos. Le bureau est en pleine effervescence en prévision des fêtes de printemps. Beaucoup d'entre nous seront en déplacement. Quant à Marjolaine et moi, si tout se passe comme prévu, lorsque vous regarderez cette édition, nous serons déjà au Cameroun en Afrique centrale, où, si Dieu le veut, nous célébrerons la Pâque, la soirée mémorable et le premier jour des pains sans levain. De là, nous nous rendrons au Togo, puis nous passerons une semaine en Côte d'Ivoire, et enfin nous ferons un bref séjour en Afrique du Sud, où je prononcerai le sermon à Johannesburg, et où nous retrouverons nos amis Tim et Valérie Waddell, qui servent cette congrégation. Douglas Orshak se rendra au Nigeria et au Ghana. Jim et Sharon Franks et Brittany Donna Taylor se rendront en Argentine et dans l'Uruguay. Clyde et Di Kailo se rendront en Alberta au Canada. David et Pam Myers iront dans le New Jersey, à New York et en Pennsylvanie, puis à Monterrey au Mexique. David et Marguerite Evans se rendront dans l'Oregon et à Washington. Ma femme et moi sommes rentrés le 9 mars d'un voyage de 10 jours en Martinique, aux Antilles. Nous rendons visite à nos frères et sœurs là-bas une fois par an et nous y passons 2 sabbats. Nous servons ce groupe depuis presque 25 ans. Ils sont donc devenus de bons amis. Bien sûr, nous profitons aussi de la vie insulaire pendant quelques jours. Les plages sont magnifiques, les montagnes luxuriantes sont époustouflantes et l'eau des Caraïbes est chaude et claire. La cuisine épicée, principalement à base de poisson, est délicieuse. Pendant notre séjour en Martinique, nous avons eu une étude biblique le vendredi soir et 2 assemblées du sabbat, avec beaucoup de temps pour la fraternisation. Malheureusement, mon emploi du temps nous imposait de venir pendant le carnaval et le Mardi Gras, qui sont célébrés avec des défilés dansants, beaucoup d'alcool, et, nous a-t-on dit, de moins en moins de vêtements. Nous avons dû éviter la route pendant 3 jours, la circulation étant très dense. Le second sabbat, nous avons dégusté, après l'assemblée, un délicieux repas traditionnel martiniquais composé de poissons fraîchement pêchés, de jus de fruits frais pressés, d'espèces inconnues aux États-Unis et de lait de coco fraîchement récolté. Nous avons beaucoup apprécié notre visite en Martinique. C'était merveilleux de revoir nos frères et sœurs là-bas et de passer du temps ensemble. En raison des exigences contraignantes du gouvernement rwandais pour que notre association de l'Église soit reconnue légalement, j'ai dû partir le lendemain de notre retour de Martinique pour un voyage de 8 jours au Rwanda. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler des progrès réalisés là-bas et ont mentionné qu'ils prient pour la réussite de ce processus. J'ai mentionné précédemment qu'une des conditions pour la reconnaissance est que le président de l'association soit titulaire d'un diplôme en théologie. Ainsi, ni Jésus ni les apôtres ne pourraient fonder légalement une église au Rwanda. Heureusement, j'ai un diplôme en théologie. Le Conseil de gouvernance rwandais, le RGB, exige que le président soit titulaire d'un visa de séjour avant d'être reconnu, même si je n'ai aucune intention de résider dans le pays. Il m'a fallu 3 semaines avant la fête des tabernacles pour franchir toutes les étapes nécessaires à l'obtention d'un visa temporaire, valable 3 mois. Lorsque j'ai fait un détour en janvier pour le faire renouveler, il a été renouvelé pour 2 mois. J'ai donc dû faire un court trajet, environ 28 heures, aller et retour, pour faire la queue pendant quelques heures, afin que mon visa soit renouvelé par le service de l'immigration. J'ai demandé une validité d'au moins 3 mois, car je ne vis pas au Rwanda. N'ayant pas eu de réponse, en quelques jours, je suis allé en personne me renseigner sur le visa. Un agent de l'immigration m'a informé qu'il ne renouvelerait pas mon visa, et que je n'obtiendrai pas de visa de résidence tant que notre Église ne serait pas légalement reconnue. J'ai protesté, affirmant que le Conseil de gouvernance exigeait que j'obtienne d'abord le visa. Sa réaction? Nous sommes allés au bureau du Conseil, de l'autre côté de la ville, bien sûr, et nous avons expliqué ce que l'immigration nous avait dit. Leur réponse? L'un des agents a dit que quelqu'un nous accorderait peut-être une dérogation, mais ce ne serait pas lui. Un autre a dit à M. Mondili en Kinyarwanda, pour que je ne comprenne pas, qui ne devrait pas vraiment faire venir des Occidentaux dans ce genre de processus. Nous risquions d'avoir une mauvaise impression de leur fonctionnement. Je dois dire que j'avais déjà une longueur d'avance sur ce point. De retour à l'immigration, j'ai insisté autant que possible, mais l'agent m'a demandé de revenir dans l'après-midi. À mon retour, ils m'ont accordé une prolongation de visa valable une semaine. Nous sommes donc dans une situation inextricable. Je crois que Dieu devra intervenir pour résoudre ce dilemme. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions que notre bâtiment était conforme aux normes. Alors nous avons demandé aux autorités locales de vérifier. Elles ont informé M. Modelli qu'il nous manquait 250 mètres carrés de terrain. Même si nous n'en avons pas besoin, nous devons donc acheter plus de superficie. Les autorités lui ont également indiqué que notre clôture en bois devrait être remplacée par une clôture métallique, même si cela ne figure sur aucune exigence écrite que nous ayons pu lire. Heureusement, mes documents de formation ont déjà été approuvés, car ils voulaient les voir. Ils ont vu mon diplôme mentionnant la théologie et mon relevé de notes indiquant tous les cours que j'avais suivis. Les cours en théologie les plus nombreux comportaient le préfixe TH devant le numéro. Ils ont exigé que nous prouvions que TH signifie théologie. Comme je l'ai dit, ces documents ont heureusement déjà été acceptés. Mais ce n'est pas tout. Le 7 mars dernier, le Conseil de gouvernance rwandais a ajouté des exigences supplémentaires. Les voici. Il nous est interdit de nous réunir pour louer Dieu ensemble depuis l'été dernier. Cette interdiction perdurera jusqu'à ce que nous remplissions toutes les conditions. Mais comme de nouvelles conditions sont ajoutées, le processus ne peut être finalisé. Voici quelques nouvelles conditions. Des frais de fonctionnement non remboursables de 1 500 $ sont désormais exigés pour pouvoir postuler. Toutes les cérémonies religieuses ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur d'une église. Fini donc les mariages ou les baptêmes en plein air. Nous devons fournir une liste de 1000 noms d'habitants du village, signés, accompagnés de numéros d'identité et de numéros de téléphone, sans inclure nos membres, et attestant de leur soutien au fonctionnement de notre Église. Nous devons fournir un plan d'action aligné sur les priorités du développement du village. Autrement dit, les autorités attendent que nous nous financions ces programmes de développement. Nous devons fournir une liste, entre guillemets, d'activités socio-économiques transformatrices, fermez les guillemets, que nous comptons mettre en œuvre. Bien sûr, cela implique davantage de fonds. On nous a dit que le gouvernement cherchait simplement à protéger les Rwandais de pratiques prédatrices. Mais de nombreuses églises, plus de 7000, ont été fermées depuis l'année dernière. En raison de ces nouvelles exigences, il faudra plusieurs mois avant que quiconque puisse finaliser le processus. Nous avons pourtant 40 ans d'expérience sans le moindre plainte ni problème. Nous prions pour que Dieu nous ouvre la porte afin que nous puissions remplir toutes les conditions requises à temps pour que nos frères et sœurs puissent célébrer ensemble la fête des tabernacles. Veuillez joindre vos prières aux nôtres. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe du Bureau central, je vous souhaite de joyeuses fêtes de la Pâque et des pains sans levain.